Alors aujourd'hui, on va voir l'Annonciation comme première étape dans la vie de Marie. On va voir comment je vais faire trois parties. Bon, une première sur comment Zacharie présente Marie. Donc je vais lire le récit de l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. En fait, c'est comment Jean-Baptiste finalement présente Marie. Bon, Jean-Baptiste, toujours le précurseur. Ensuite, comment l'ange présente Marie. Ça va être ma deuxième partie. Puis ma troisième, c'est avec Marie comprendre le sens de l'obéissance et de la liberté. Avec ce fiat, hein, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, je commence. Donc, première partie, à son insu, Zacharie présente Marie. Pourquoi je reviens à Jean-Baptiste? Parce que le récit de l'Annonciation commence comme ceci. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Le sixième mois. Le sixième mois, par rapport à quoi? Par rapport à l'événement qui concerne Jean-Baptiste. Hein? Sixième mois après cette annonce à Jean-Baptiste. Alors du coup, je vais lire l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, ensuite lire l'annonce de la naissance de Marie, et on va voir la différence entre ces deux annonces qui, voilà, ça va être très instructif. Alors je prends dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 5. Il y eut au jour d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia, il avait pour femme une descendante d'Aaron, dont le nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient, irréprochables, tous les commandements et observances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, parce que Élisabeth était stérile et que tous deux étaient avancés en âge. Or, il advint, comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales autour de sa classe, qu'il fut, suivant la coutume sacerdotale, désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Et toute la multitude du peuple était en prière dehors à l'heure de l'encens. Alors lui apparut l'ange du Seigneur debout à droite de l'autel de l'encens. À cette vue, Zacharie fut troublé. Et la crainte fondit sur lui. Mais l'ange lui dit, Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Il sera rempli d'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, À quoi connaîtrais-je cela? Car moi je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. Et l'ange lui répondit, Moi, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici que tu vas être réduit au silence, et sans pouvoir parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. Le peuple, cependant, attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardât dans le sanctuaire. Mais quand il sortit, Il ne pouvait leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Pour lui, il leur faisait des signes et demeurait muet. Il advint quand ses jours de service furent accomplis qu'il s'en retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth conçut et elle se tenait cachée 5 mois durant. Voilà donc, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur, au temps où il lui a plu d'enlever mon opprobre parmi les hommes. Je continue l'Annonciation. Le sixième mois, donc après cet événement, L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. » Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois. Elle qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, j'ai trouvé qu'il était intéressant de voir que le récit de l'Annonciation est encadré au début et à la fin par cette note du sixième mois. En fait, le plus grand des événements, qui est la naissance de Jésus, est rapporté par rapport à la naissance de Jean-Baptiste. C'est important de toujours bien être attentif à ce ministère de Jean-Baptiste, qui est présent vraiment dès le commencement. Vous savez, un texte, souvent, on le commence et on le termine de la même manière pour un juif. Ça permet de bien l'encadrer et de montrer l'importance. Hein, vous l'avez dans le prologue de Saint Jean. Le prologue commence et termine de la même manière. Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu. Et il termine de la même manière. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. Le Fils qui est tourné vers le sein du Père. D'accord ? Et au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu. Voilà. Là, c'est la même chose. Hein. Le sixième mois, voilà. Hein, tout est référé à Jean-Baptiste. Et voilà. Et on termine par Élisabeth, hein, qui en est à son sixième mois. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi j'ai lu les deux annonciations, parce qu'elles sont très différentes et vraiment à l'opposé, voyez. Le lieu d'abord. Le lieu, Zacharie est à Jérusalem. Jérusalem, c'est la cité la plus connue, le centre de gravité de tout le peuple. Et l'ange va apparaître dans le sanctuaire. Par contre, Marie, eh bien, elle est à Nazareth. Alors, Nazareth, c'est le bled perdu, ignoré, voire méprisé. Hein? De quoi peut-il sortir de bon de Nazareth? Hein? Jean chapitre 1, verset 46. Donc, c'est même pas un village, c'est un petit hameau, c'est un trou, c'est un bled avec quelques maisons. L'antithèse de Nazareth, ça va être Capharnaüm. Hein, Capharnaüm, c'est le lieu où il y a plein de relations, où il y a du commerce, où il y a des échanges. C'est un lieu ouvert, Capharnaüm. Pas du tout Nazareth. Quand vous allez à Nazareth, pour ceux qui sont déjà allés, si vous montez un petit peu, il y a une petite colline à côté, vous regardez de haut Nazareth, vous voyez bien que c'est très enclavé. Et donc, Jésus devait sortir de Nazareth, devait sortir de cette vie cachée pour annoncer, parce qu'en restant à Nazareth, ça n'aurait pas fonctionné hein, du tout. Mais du coup, le thème de la vie cachée à Nazareth, oui, physiquement, extérieurement, on comprend bien ce que ça veut dire, c'est très caché. Hein, tu peux très bien passer dans les routes avoisinantes, hein, au niveau de la région, en passant à côté de Nazareth. Voilà. Alors, on nous dit quoi ? On nous dit dans ce lieu que l'ange entre vers Marie. D'ailleurs, on ne nous parle pas de lieu. Hein, il a enlevé Marie. Hein. Le sixième mois, Gabriel fut envoyé dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Et il entra où? On ne sait pas très bien où il entre. Il entra. Bon, on ne nous précise pas d'ailleurs que c'est la maison. Contrairement à la mention du temple avec Jean-Baptiste, en fait, il entre, on pourrait dire, il entre auprès d'elle. C'est elle qui devient la maison de Dieu, la véritable maison, le sanctuaire. Après le lieu, les auditeurs. Avec Zacharie, tout le peuple est rassemblé. Hein? Ils sont là par centaines. Il y a quelque chose qui se passe. Ils voient bien que quelque chose d'insolite se passe. Chez Marie, c'est l'anonymat le plus total. Hein? Il n'y a aucun témoin. Ensuite, le moment. Pour Zacharie, c'est le moment le plus solennel et grandiose de la prière. On est en pleine liturgie. Chez Marie, c'est dans la plus stricte intimité. Certainement un moment de prière silencieuse. Ce que disait un des pères de l'Église, bon, peut-être dans sa vie quotidienne. En tout cas, Marie, c'est une femme qui vit avec le Seigneur. Donc, moi, je ne l'imagine pas tellement dans la précipitation. Je l'imagine, posée. C'est pas une femme excitée au sens hors d'elle-même. Voilà. Donc, elle est capable, même dans son quotidien, mais de se laisser visiter par Dieu. Les personnages, dans le premier récit, on a un homme très âgé, au soir de sa vie, marié depuis longtemps. Et chez Marie, c'est une toute jeune fille, à peine fiancée. Ensuite, leur foi. Zacharie n'en croit pas ses oreilles. Il doute de la puissance de Dieu. Chapitre 1, verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrai-je cela, car moi je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » Alors vous allez me dire, mais Marie c'est pareil, puisqu'elle dit, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» C'est pas pareil. La question n'est pas la même. L'un c'est, « À quoi connaîtrai-je cela ?» Et Marie, c'est comment? Ah, très bien. Pourquoi pas? Je suis ouvert. Mais comment ça va se faire? C'était un responsable d'une communauté. Et, enfin, comme dans une paroisse, on peut dire la même chose. Et les gens, ils disaient, il faudrait passer du, comment il avait cette formule? J'ai plus la formule, c'est embêtant. Enfin, il disait dans notre vie, il faudrait nous poser la question du comment et pas tellement du pourquoi au sens est-ce qu'on doit faire les choses, est-ce que notre réflexe est de dire comment ça va se faire. Quand on a une mission, même pour un prêtre, vous voyez, il reçoit une mission. Le premier réflexe, c'est de dire oulala, c'est pas possible. Là, ça va être difficile, ou là, on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens. Vous voyez, il peut y avoir une attitude dans le service qui est une attitude un petit peu de... En fait, quelles sont les raisons qui me disent que ça va réussir? Vous voyez, ça, c'est un peu Zacharie. À quoi connaîtrais-je cela? Et Marie, c'est comment? Mais je veux bien, mais vous allez m'expliquer le mode d'emploi. Vous voyez, si dans l'Église, on était à passer du à quoi au comment... Voilà. Marie, voyez, ne doute pas une seconde. Elle n'est pas dans le doute. Marie pose une question. Pourquoi elle pose une question? Pour mieux entrer dans la pensée du Seigneur, pour mieux obéir. Elle réfléchit. Voilà. Ensuite, le signe. Vous remarquez que Zacharie demande un signe et n'en reçoit pas. Chapitre 1, verset 18, ce que je viens de lire. À quoi connaîtrais-je cela? Je voudrais un signe. Marie ne demande pas de signe et en reçoit un. Voilà. Et le signe, ça va être Élisabeth, ta cousine, elle aussi est enceinte. Mais elle n'a pas demandé de signe. Donc elle va aller chez Élisabeth et là, elle a la confirmation de cet événement miraculeux. Bon, elle n'a pas besoin de cette confirmation, mais elle a cette confirmation. Leur origine maintenant. Zacharie, il est de pure souche sacerdotale. Fils de prêtre. Et Marie est qualifiée par aucun lignage, comme si elle était orpheline. Et pourtant, elle est mentionnée en premier et par deux fois. Ensuite, l'unité du couple. Alors, on souligne bien l'unité entre Zacharie et son épouse, Élisabeth, qu'on mentionne. Par contre, Marie est dissociée de Joseph. Vous voyez, on ne parle pas de Joseph. D'où les « toi, il en, tu lui donneras, hein, tu concevras ». Ah oui. Donc, l'unité du couple. Ben, dans le premier récit, on parle du couple. Dans le deuxième récit, eh bien, on en parle très peu, voire pas. Voilà. Donc ça, c'est important. Voilà. Parce que, eh bien, Joseph est vraiment père, mais pas selon la chair. La venue de l'ange. Voyez, dans le premier récit, il apparaît après 6 versets. Et dans le récit avec Marie, il apparaît d'emblée, avant que Marie soit présentée. Bon, peut-être pas obligé de tout noter à chaque fois, hein, mais bon, j'avance un peu plus vite. Voyez, les déplacements. Dans le premier récit, le prêtre se déplace. Il rencontre l'ange. Dans le deuxième récit, c'est l'ange qui se déplace pour aller vers la Vierge. Comme si le plus petit allait vers le plus grand. Marie est plus grande que l'ange. Voilà, il s'est penché sur son humble servante. Il a élevé cette servante. Marie est grande. Alors, leur sainteté, elle est quand même différente. La sainteté de Zacharie et d'Élisabeth, on en parle en termes de loi. Ils étaient justes devant Dieu, ils suivaient, irréprochables, tous les commandements, observants du Seigneur. Ça, c'est, on est dans le monde de l'Ancien Testament. On suit bien la loi. Avec Marie, on ne va pas parler de la loi, on va parler de la grâce. Réjouis-toi, comblé de grâce. Je vais revenir là-dessus. La prière. Alors, on nous parle d'une prière de Zacharie qui a été exaucée dans le premier récit. Pour Marie, il n'y a aucun désir. Il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas de demande de son côté, comme si tout était gratuit, tout est grâce, tout est donné alors qu'elle n'a rien demandé. Et enfin, la paternité. Zacharie va donner le nom à l'enfant. Par contre, c'est Marie qui donnera le nom à l'enfant. Alors maintenant, ça c'était pour montrer, vous voyez comment, à travers tout ce que j'ai mentionné, on a déjà quelque chose du mystère de Marie. Ce qui est intéressant, vous voyez, quand on met, et Saint-Luc, il fait toujours des trucs en parallèle. À chaque fois, il met en parallèle. Pourquoi ? Pour montrer le sens des événements. Alors, je vous donne un autre exemple, par exemple. voyez, la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus. Donc, vous regarderez dans votre Bible, la naissance de Jean-Baptiste, on ne nous dit pas grand-chose. Quant à Élisabeth, le temps fut accompli où elle devait enfanter et elle mit au monde un fils. Voilà. Ses voisins et ses proches apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde et ils se réjouissaient. Voilà pour la naissance de Jean-Baptiste. Pour la naissance de Jésus, on n'arrête pas, il y a les anges, il y a plein de trucs, etc. C'est très long. Donc en contraste, on voit bien que la naissance de Jésus, il y a un événement un peu surnaturel dans cette naissance. Par contre, pour la circoncision de Jean-Baptiste, on va en parler pendant des heures. Par contre, la circoncision de Jésus, on va parler à peine. Parce que Jean-Baptiste, c'est l'homme de l'Ancien Testament. Donc, on va beaucoup développer ce thème de la circoncision, etc., de la loi ancienne. Pour Jésus, c'est l'homme du Nouveau Testament. Donc, ça n'a plus lieu. C'est pas très important. Et les contrastes sont intéressants. Alors maintenant, je regarde comment l'ange présente Marie. Alors, je prends davantage maintenant le récit de l'Annonciation. Voilà, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. Bon. Il est cet homme de la maison de David et le nom de la vierge était Marie. Alors, c'est intéressant, ce nom, c'est le septième nom, Marie. Quand vous prenez le récit depuis le début, vous regarderez, eh bien, vous avez sept noms. L'ange Gabriel, Dieu, Galilée, Nazareth, voilà. Joseph, David et Marie. Ça fait sept. Bon. Il entra auprès d'elle et lui dit, réjouis-toi. Alors, réjouis-toi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire sois salué et ça veut dire réjouis-toi. Je vais d'abord m'intéresser à réjouis-toi. En fait, ce terme de réjouis-toi, on le retrouve dans l'Ancien Testament, dans le texte grec de la Bible, toujours dans un contexte où Sion, c'est-à-dire Jérusalem, est invité à la joie messianique dans une perspective d'avenir et de salut futur. Je cite par exemple Sophonie 3,14. « Pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. » Vous savez que la Bible a été traduite en grec, ce qu'on appelle les Septante. Et alors donc, quand on a un mot grec dans le Nouveau Testament, on regarde dans l'Ancien Testament où il se retrouve. Et à chaque fois, eh bien, c'est toujours dans un contexte où Sion est invité à une joie dans une perspective de salut. Donc, réjouis-toi, Jérusalem, réjouis-toi, Sion, car tu vas être sauvé, car Dieu va passer. Et en quelque sorte, Marie est celle qui est ce nouveau temple, ce nouveau lieu dans lequel le salut va s'opérer. Vous voyez, Sion, c'est l'idée de Sion, c'est toujours l'idée du temple. Voilà, Jérusalem, Sion, ce lieu où tous les peuples doivent venir, comme dit le livre d'Isaïe. Eh bien, ce temple... tout d'un coup, dans le Nouveau Testament, Luc attribue à Marie ce qu'on disait du temple. Et du coup, je comprends que Marie est ce nouveau temple. C'est elle, voilà, la nouvelle cité. La présence de Dieu, elle est d'abord dans une tente, vous savez, hein, le peuple est errant dans le désert. Et ensuite, David dira, mais écoutez, il faut peut-être faire autre chose qu'une tente, c'est pas mal, bon, mais on pourrait faire un temple. Et donc, il va y avoir la construction du temple. Et alors, Dieu dit, mais vous savez, vous me construisez un temple, mais c'est moi qui vais bâtir un temple. Et donc, il y a toujours ce jeu de mots avec l'histoire de David et Nathan. Bon, vous regarderez dans le livre de Samuel. mais en fait, construire une habitation, en fait, c'est Dieu qui dit, je vais te construire une maison. Alors, maison et descendance, c'est le même mot en hébreu. Donc, l'homme dit, moi, je vais construire une maison, un édifice. Et Dieu dit, mais non, c'est moi qui vais construire ta maison. Mais là, il faut le prendre au sens de descendance. En même temps, avec Marie, ben, on comprend, oui, c'est Dieu qui a construit cette maison. Bien sûr que Dieu construit cette descendance, il donne une descendance. Hein. Mais en même temps, il construit une maison et il va construire cette maison qui est Marie, qui est l'Immaculée Conception, qui est ce temple très pur, hein, qui est ce corps, un corps de chair, qui va donner à Dieu, eh bien, cette nature physique, charnelle, pour être proche du monde. Voilà, elle est le nouveau temple. Alors, je peux donner d'autres références. Le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Vous retrouvez ce « Réjouis-toi ». Voilà. Alors, c'est aussi « Sois salué ». Ce qu'on dirait, en latin, on dit « Ave Maria ». C'est-à-dire, c'est plein de révérences. « Ave César hein? ». Ce n'est pas un simple « Bonjour ». C'est un mot qui signifie un vrai respect, qu'on retrouve d'ailleurs dans la Passion quand on va se moquer de Jésus. Salut, roi des Juifs. Matthieu 27, 29. Donc, vous voyez, quand on salue le Christ de cette manière-là, on veut en fait le saluer avec beaucoup de révérence, mais c'est de l'ironie. Bon. Comment dire? Pour prendre une comparaison, ça serait un petit peu comme quand la Vierge à Lourdes parle à Bernadette. Et qu'est-ce que dit Bernadette? Qu'est-ce que dit la Vierge, pardon? Elle va dire à Bernadette, voulez-vous me faire la grâce de venir ici durant 15 jours? Et Bernadette dira, jamais une personne ne m'a parlé comme ça, avec ce vouvoiement, cette révérence. Et Bernadette est comme élevée, parce que la dame lui a parlé comme à une grande personne avec beaucoup de révérence, d'admiration. C'est un petit peu la même chose. Marie est troublée parce qu'on ne lui a jamais parlé comme ça, avec ce salut solennel qu'on lui adresse. Du coup, c'est pas mal, vous voyez, de garder dans le « Je vous salue Marie », justement le vouvoiement. Parce que le vouvoiement, on redit, vous voyez, la créature qui a été surélevée, qui a été élevée, hein. Je vous salue Marie, vous êtes très grande, vous êtes la dame, hein? Le Seigneur est avec vous. Voilà. Et par contre, vous voyez, on a le tutoiement pour Jésus, pour le Père, plus exactement, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, parce que dans l'Écriture, Saint Paul dit, nous pouvons crier et dire, Abba Père, Papa. Donc, c'est pas pareil, vous voyez. Alors, Saint Paul dit, en fait, on peut reprendre le mot que Jésus lui-même a adressé à son Père. Dans la Passion, vous prenez la Passion de Saint Marc, vous regardez, quand Jésus est au jardin de Gethsémani, il s'adresse à son Père en disant Abba, Père. Abba. Abba, c'est le mot de l'intimité, c'est papa, c'est papa chéri, c'est bon. Et Saint Paul dit, nous aussi, Romains 8 ou Galates 4, nous avons le même esprit, l'esprit de Jésus, et nous pouvons aussi nous dire Abba, nous osons dire Abba, nous osons reprendre le même mot que Jésus a pris durant sa passion. Voilà. Du coup, Marie est troublée qu'on s'adresse à elle de cette manière-là. Ça va pour le tutoiement et le vouvoiement? Du coup, c'est plus clair, hein? Bon. Alors après, vous pouvez dire réjouis-toi, comblé de grâce, Alors tout ça, je le tiens à un certain Guillaume de Mantière, dans son livre sur l'Eucharistie à l'école de Marie, page 15. Alors, l'ange, comment il l'appelle? Il l'appelle pas Marie. Comment il l'appelle? Il entra et lui dit, Réjouis-toi, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Et il ne l'appelle pas par son nom quand il entre. Non, on sait qu'elle s'appelle Marie, mais il ne l'appelle pas par son nom. Il lui dit, réjouis-toi, comblée de grâce. Tu es pleine de grâce. Alors, on peut comprendre, réjouis-toi, comblée de grâce, virgule, le Seigneur est avec toi. En fait, c'est peut-être ça, la première définition de la grâce, c'est que le Seigneur est avec toi. Être rempli de grâce, c'est avoir le Seigneur avec nous. Nous sommes dans l'ère de la grâce. Nous aussi, le Seigneur est avec nous. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Elle est ce qu'elle porte. Le Christ, enfin, la grâce, c'est-à-dire la présence de Dieu, qui pour elle ne va pas être simplement une présence du Saint-Esprit, même si c'est déjà ça, parce qu'elle est Immaculée Conception, donc toute pure, c'est-à-dire complètement remplie de l'Esprit Saint, pleine de grâce. Eh bien, en quelque sorte, alors il y a d'abord cette première présence, et puis la deuxième présence, c'est le Seigneur. Et le Seigneur est tellement présent en elle, d'abord par la foi, comme vont dire les pères, qu'elle devient ce qu'elle porte. Elle est le Seigneur. Saint Paul dit un peu la même chose quand il dit, pour moi, vivre, c'est le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous voyez, Paul reproduit un petit peu quelque chose du mystère de Marie. Jean-Baptiste, c'est pareil. Comment il se définit? Il est la voix qui crie dans le désert. Il ne dit pas je suis Jean-Baptiste. Il dit je suis la voix qui crie dans le désert. C'est-à-dire, Jean-Baptiste, il n'est qu'un cri, il n'est qu'une voix. Son message, c'est son être, c'est son message. D'ailleurs, il parle à travers son être, Jean-Baptiste. Il parle à travers le désert. Il parle à travers son vêtement, peau, il parle à travers son humilité qui fait qu'il ne fait que reprendre les paroles d'Isaïe. Voilà. Bon. Hein? C'est très beau de voir comment. Alors, vous avez après chez nous, chez les saints, vous voyez un saint François d'Assise, dit moi, je veux vivre l'évangile. Voilà. Une Marthe Robin, bon, elle, c'est une grâce particulière avec les stigmates. Mais c'est ça l'idée. Hein? Tu es pleine de Dieu. Tu es comblée de grâce. Et du coup, elle nous montre. En quelque sorte, la nouveauté de la vie spirituelle, y compris pour nous. L'Ancien Testament, être un saint, c'était, à l'image de Zacharie et Élisabeth, être bien conforme à la loi. Et la conversion, c'était revenir à cette loi qu'on avait abandonnée. Hein? Voilà, vous aviez des commandements, vous avez dit de ne pas suivre les idoles, de n'avoir qu'un seul Dieu, et vous avez fait des alliances avec les pays étrangers. Hein? Et du coup, ça y est, vous partez dans le décor et puis vous êtes déporté, et voilà. Vous comprenez? Alors les prophètes vont crier, et puis le peuple va dire, on va revenir à cette conduite première, on va arrêter nos idoles et tout ça, on va faire un seul culte. D'accord, on s'est trompé, pardon, on va jeûner et on redémarre. Ça, c'est l'Ancien Testament. La conversion, c'est revenir à cette conduite première qu'on a abandonnée. Le Nouveau Testament, c'est réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. C'est-à-dire, la conversion, c'est vivre avec la présence du Seigneur qui est au milieu de nous. Quand l'évangile de Marc commence, on voit bien la prédication de Jean-Baptiste et la prédication de Jésus sont très différentes. Jean-Baptiste dit simplement, convertissez-vous, hein, rejetez vos péchés, convertissez-vous. Jean-Baptiste dira, Jésus dira, convertissez-vous, le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc, vivre en fonction de quelqu'un, c'est très différent. Je vais ne plus être un serviteur, mais un ami qui cherche la volonté de son ami. Montre-moi, Seigneur, ce que tu veux, je me laisse conduire. Je suis disciple du Christ. Se convertir, c'est être disciple du Christ, c'est marcher à sa suite. Alors, du coup, d'où les paraboles sur la conversion, on va nous dire, ben, se convertir, c'est comme le royaume des cieux qui est comparable à un trésor dans un champ. Ah, se convertir, c'est donc tout vendre pour acheter le champ. Qu'est-ce que ça veut dire tout vendre pour moi? Ça peut être la pauvreté, mais peut-être pas ça. Enfin, c'est ça, peut-être autre chose. On va nous dire, si vous ne ressemblez pas à des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La conversion, c'est ressembler à un enfant. Mais un enfant, c'est quelqu'un qui accueille la grâce, qui accueille voilà, la présence de ses parents, qui reçoit tout. L'enfant, il ne peut que recevoir. Le nourrisson, il ne peut que recevoir. Donc on voit bien que la conversion, elle a pas les... c'est pas la même chose. Un homme de l'Ancien Testament et un homme d'aujourd'hui ne se convertit pas de la même manière. Donc c'est important, voyez, dans nos paroisses, que les uns et les autres soient des personnes du Nouveau Testament et pas de l'Ancien. Et des gens, ils sont simplement, je respecte la loi, je fais mes Pâques, je sais pas quoi. Et non, ça c'est bien, mais ça, tu es un homme de l'Ancien Testament. Voilà, l'homme du Nouveau Testament, c'est celui qui a compris que le royaume des cieux est au-dedans de lui, qu'il est sanctuaire comme Marie de l'Esprit Saint. Et que le but, ce n'est pas de recevoir des grâces, mais de recevoir la grâce, la présence de Dieu. Alors, je vous ai mis un petit texte de Lumen Gentium, le premier texte dans le polycopier, au numéro 56. Bon, vous n'avez pas forcément à le regarder maintenant, mais je lis en grâce qu'il y a au milieu, où le concile dit ceci à propos de l'Annonciation. Donc c'est au milieu du texte, hein, la huitième ligne. « Enrichi dès le premier instant de sa conception d'une sainteté éclatante, absolument unique, la Vierge de Nazareth est saluée par l'ange de l'Annonciation qui parle au nom de Dieu comme pleine de grâce. » Voilà, c'est ça que je voulais lire simplement. Puis après, il y a d'autres choses. Mais voyez, dès sa conception, elle a une sainteté éclatante. Donc elle est l'Immaculée Conception, une sainteté qui éclate, c'est ça que ça veut dire. Et donc elle est saluée comme pleine de grâce. Comme si... le concile voulait bien lier l'Immaculée Conception et la salutation de l'ange. C'est une question chez les protestants, ils vont nous dire, mais où est-ce qu'il y a dans l'Écriture que Marie est Immaculée Conception, qu'elle est sans péché? Ça sort d'où, ça? Et bien, le concile dit, ben, un des lieux, c'est Luc chapitre 1, verset 28, où elle est honorée, saluée comme pleine de grâce. Voilà. Alors, comme elle est pleine de grâce, eh bien, Marie va pouvoir librement dire oui à Dieu. Hein? Ça va être une des questions. Hein? Pourquoi elle est pleine de grâce? Pourquoi elle est sans péché? Parce qu'il faut répondre à Dieu. Et si tu es pécheur, eh bien, tu réponds de manière un peu à côté de la plaque. Un peu comme Zacharie. Zacharie, c'est « À quoi connaîtrai-je ? » Ah oui, mais il y a le péché, là. Voilà. En fait, il faut, pour que les gens disent oui à Dieu, il faut qu'ils soient libres. Et comment être libre? Ben, en étant sans péché. Moins on est pécheur, plus on est libre. Et plus on est pécheur, moins on est libre. C'est pas très compliqué, ça va? Bon, on reparlera un petit peu de la liberté à la fin. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Alors, le Seigneur est avec toi. C'est un mot qu'on a déjà entendu dans l'Ancien Testament. Vous le prenez, par exemple, avec Moïse. En Exode 3, chapitre 3, verset 12. Comment Dieu se présente à Moïse? Je suis avec toi. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui est avec toi. Josué, chapitre 1, verset 9. Juge. Chapitre 6, verset 12. À chaque fois dans l'Ancien Testament, quand il y a cette formule « Le Seigneur est avec toi », hein, « Moïse, je vais être avec toi ». Oui, oui, tu vas délivrer le peuple, mais t'inquiète pas, il y aura Aaron et moi je serai avec vous. Hein, et je serai dans la bouche d'Aaron, je vous donnerai les paroles, il n'y a pas de problème. Donc à chaque fois, cette formule est liée à une mission difficile. Le Seigneur est avec toi, hein, vous prenez les trois références que je vous ai données, eh bien, à chaque fois, c'est lié à une mission de salut et une mission difficile. Donc, le Seigneur est avec Marie, ça veut dire qu'il est avec elle pour une expérience, une mission de salut. Marie comprend que sa mission et la présence du Seigneur en elle, ça va être pour une question de salut. Quelle va être cette mission? En quoi elle est difficile? Est-ce que c'est de mettre au monde un enfant? Est-ce que c'est ça qui est difficile? Ou est-ce que ce qui ne serait pas plus difficile, c'est d'être co-rédemptrice? Peut-être ça qui est difficile. C'est de participer au salut en étant elle-même au pied de la croix avec le Seigneur. Donc Marie comprend qu'elle entre dans une aventure qui dépasse tous les plans humains, toutes les possibilités humaines. Quand on dit le Seigneur est avec toi, ça veut dire tu as besoin de lui. Tu ne pourras pas t'en sortir tout seul. À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Voyez, elle n'est pas troublée par l'ange. Elle est troublée par la parole. Marie, elle habite avec Dieu. Ça ne la gêne pas. À cette parole, elle fut toute troublée. C'est la parole qui la trouble. Alors, pourquoi? Ben, peut-être parce que c'est cette mission difficile. Peut-être que c'est ce vouvoiement, cette manière d'être considérée, cette proximité ou de Dieu, qui l'honore de cette façon. Et puis, le fait que elle est remplie de grâce, elle est pleine de grâce, le Seigneur est avec elle. Marie est une femme qui ne se regarde pas. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de retour sur elle-même. Pourquoi? Parce que c'est l'humilité même. Donc, quelqu'un, vous faites des compliments à quelqu'un qui ne se regarde pas, il est très étonné. Ben voyez, ah oui, vous savez, vous m'avez dit ça, ça m'a beaucoup touché, vous savez, c'est super ce que vous faites. Ah bon, je ne vois pas du tout. Oui, ah bon, oui. Vous voyez ça? Bon, non. Parce que quand la personne est vraiment habitée par le Seigneur, de toute manière, elle sait que le bien qu'elle fait, elle le fait grâce à Dieu. Donc, ce que je le fais par la grâce de Dieu, dit saint Paul. Alors l'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as été choisie par Dieu. Et voici que tu vas concevoir dans ton sein et enfanter un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Jésus, ça veut dire le Seigneur sauve. Donc voilà, elle comprend. Le Seigneur est avec toi, c'est une mission difficile. Et le nom de l'enfant, il dit aussi la mission, le Seigneur sauve. Alors, je suis bien embarqué dans une mission de salut. Alors, il va être grand, fils du Très-Haut. Bon. Il aura le trône de David, son père. Il va régner sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, son règne n'aura pas de fin. Donc, là, vous voyez, on est en train de dire l'origine humaine de Jésus. Le trône de David, la maison de Jacob, d'accord, vous voyez, tout ce lignage humain. Jésus vient dans une histoire, en particulier par Joseph. Et alors, du coup, la question, c'est l'origine divine. Et c'est ça la question ensuite de Marie. Mais comment cela va-t-il se faire? Alors, Marie est surprise, prise un peu de peur aussi. Pourquoi? En fait, on peut s'attendre à plusieurs réactions. Elle peut très bien dire, Marie, c'est super, c'est sur moi que ça tombe, j'ai compris que, en fait, j'allais porter le Messie, c'est ça que ça veut dire, hein. Hein, il va régner, on attendait quoi? On attendait un Messie qui soit un roi. Hein, c'était ça dans l'imaginaire juif, le Messie serait roi, on pensait aussi qu'il serait prêtre. Bon. Et donc Marie a exactement, quand elle entend l'ange, elle a exactement les définitions du Messie. Bon. Alors, elle peut très bien dire c'est super, elle peut très bien dire moi je suis pas digne, ou là, non, non, je suis pas capable, ou elle peut très bien comprendre que ce Messie, quand on connaît le contexte de l'époque, vous savez que Hérode avait fait tuer ses frères et ses enfants. Donc, au temps de Jésus, vous avez quelqu'un qui est en place, qui s'appelle Hérode, et qui a une très grande peur, c'est qu'on lui prenne le pouvoir. Donc, quand vous êtes une femme, que vous entendez que vous allez être la mère du Messie, vous dites, mais attendez, dans le contexte actuel, Daesh à côté, c'est rien du tout, quoi. Et donc, vous pouvez être pris de peur un peu quand même. Hein? D'ailleurs, Hérode s'était fait passer pour le Messie lui-même. Hein? Il avait fait des pièces avec marqué Hérode Messie. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans son testament, il avait dit, je demande de tuer tous les notables de Judée. Comme ça, il y a des gens qui vont pleurer à mon enterrement. Voilà. Donc, vous voyez, le massacre des saints innocents est tout à fait possible. Hein. Il avait même tué sa femme qu'il aimait. Bon, bref. Donc, quand Marie entend, voyez, Simon qui dit, un glaive va transpercer ton cœur, elle peut penser à ça. Elle peut penser à cet Hérode qui, en fait, pourrait sévir. Et c'est ce qu'il fera d'ailleurs avec le massacre des saints innocents. Bon. Alors, Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire? Voilà, comment? Et non, est-ce que cela va-t-il se faire? Voilà, j'ai retrouvé ma note là, où ce responsable disait, dans nos vies, il faut passer de est-ce que ceci, est-ce que j'aide un tel, est-ce que, à comment? Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Alors, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil que Zacharie. Pourquoi Zacharie? Ça veut dire quoi Zacharie? Ça veut dire Dieu se souvient. Et donc Zacharie, il devrait se souvenir que dans l'Ancien Testament, des femmes qui enfantent en étant stériles, âgées, c'est courant. Ah oui. C'est pas très original. Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient. Zachar, la mémoire. Mais tu te souviens pas que dans l'Ancien Testament, il y a d'autres femmes qui ont vécu ça? Marie, par contre, c'est un peu unique. Il n'y a jamais eu ça, une vierge qui enfante. Donc sa question, elle est quand même plus justifiée. Et puis en plus, tu as prié, tu avais demandé, ta supplication a été exaucée. Zacharie n'a pas prié. Bon, c'est pas pareil. Marie a prié, Marie n'a pas prié pour, voilà. Zacharie a prié. Voilà. Alors, comment cela va-t-il se faire? Il y a peut-être chez Marie aussi, alors là c'est un peu délicat, en fait elle est avec Joseph, mais certains théologiens vont dire qu'il y a chez Marie une attirance pour un certain célibat. Bon, il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, normalement tout le monde se marie et c'est la route normale. Bon. En même temps, un historien qui s'appelle Flavius Joseph, ça va? Bon, il est... Ah bon, d'accord. Bon, enfin, bon, bref. Il existait à l'époque des Juifs, des gens qui faisaient donc le choix d'un célibat. On a ça chez les Esséniens de Qumran. Bon. Ça va, les Esséniens, on sait qu'ils étaient célibataires. Bon. Voilà, donc. Il y avait un certain idéal, peut-être, d'un célibat naissant. Et Marie, en quelque sorte, se serait mariée à Joseph, tout en ayant ce désir d'une certaine consécration. D'ailleurs, les expressions, les expressions qui concernent Marie, là, se retrouvent aussi dans l'Ancien Testament. Alors, je prends Juges, chapitre 11, verset 29. On nous parle, je cite, j'ai plus noté le nom des femmes là. Je pleurerai ma virginité. Ah voilà. Alors, Parmi les habitants de Yabesh en Galaad, ils trouvèrent 400 jeunes filles vierges qui n'avaient pas partagé la couche d'un homme et les emmenèrent au camp. Hein? Ainsi, la formule « ne pas partager la couche d'un homme » est employée pour des vierges. Bon, je ne connais pas d'homme, voilà, je ne partage pas, voilà. Peut-être attribué à quelqu'un qui aurait ce désir d'une certaine virginité. Alors, je m'appuie sur un cours de Jean-Baptiste Hédard, où il dit ceci, Luc 1, 34 devrait se traduire, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne dois pas ou je n'ai pas l'intention de connaître un homme ?» Marie ne verrait pas alors son union corporelle à Joseph comme quelque chose devant se réaliser de manière imminente. Bon. Voilà. Et un théologien, le père Torel, dit ceci. Il cite Charles d'Erlincourt. Ô Seigneur, tu as voulu naître d'une vierge, mais d'une vierge mariée, afin d'honorer par une même action la virginité et le mariage. Bon, on a un petit peu ça chez les parents Martin. Vous voyez, les parents Martin, ils voulaient en fait être consacrés à Dieu. Puis on leur a dit non, non, en fait, la consécration à Dieu, ce n'est pas dans le célibat, ce n'est pas votre appel. Vous avez un appel au mariage. Donc, ils se sont mariés. D'ailleurs, au départ, ils ne faisaient pas d'enfants. On leur a dit, attendez, il faut faire des enfants. Donc après, ils ont fait des enfants. Puis, ils en ont fait pas mal. Bon. Bon, vous voyez, il y a comme une inclination chez eux à la vie, à certains célibats. On leur a dit, mais non, 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 c'est le mariage, puis c'est d'avoir des enfants. Bon. Donc, c'est un petit peu ça, vous voyez, une consécration chez Marie qui veut être toute à Dieu et qui en même temps se rend compte qu'à son époque, la voie normale, c'est la voie du mariage. Bon, ben, je vais me marier, mais dans mon cœur, j'ai comme ce désir de cette consécration. Voilà. Bon, ça va ? Bon, vous verrez, chaque théologien fait son petit truc là-dessus. Bon, chacun cherche un peu. Alors, tu te poses la question, mais t'inquiète pas, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Alors, l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est pareil, cette formule ne se retrouve que trois fois dans toute la Bible. En Isaïe 35, on parle du peuple messianique. En acte 1, pour la naissance de l'Église, et ici. Comme si on voulait nous dire, cette formule, à chaque fois vous la retrouvez, cet Esprit Saint qui vient dessus, à chaque fois vous la retrouvez pour un peuple. À la Pentecôte, en Isaïe avec ce peuple, et sur Marie. Comme si Marie était celle qui, en elle, portait plus qu'un homme, elle porte toute l'Église, tout le peuple d'Israël. Et la puissance te prendra sous son ombre. Hein, sous son ombre, c'est une expression encore qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Elle devient en quelque sorte le nouvel arche d'alliance, le nouveau saint des saints. Voilà, l'ombre de Dieu, la puissance, l'Esprit Saint qui entre, la gloire de Dieu qui entre dans le saint des saints. Voici que Marie va devenir ce saint des saints, ce temple. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Alors, le mot saint, pareil, suivant les traductions, peut être attribué à l'être ou à la naissance. C'est pourquoi l'être saint, Jésus qui est saint, sera appelé fils de Dieu. Ou autre traduction, c'est pourquoi l'être qui naîtra de manière sainte sera appelé fils de Dieu. Enfin là, c'est la naissance qui est sainte. Mais si vous mettez le mot saint à côté de l'être ou à côté de la naissance, vous n'avez pas le même sens. Il va naître d'une manière sainte. Ce qu'on retrouve dans le prologue de Saint Jean, c'est lui qui fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Ça va ? Il n'est pas né comme les autres. Il est né de Dieu. Donc il y aurait comme une attestation de cette virginité de Marie dans ce mot de saint mis à côté du mot de naître. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Donc on met en parallèle la virginité de Marie et la stérilité d'Élisabeth. Et Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Voilà, ce fiat de Marie qu'on retient, le cardinal de Bérulle disait, ce fiat de la Vierge était plus puissant en son effet que le fiat de Dieu au matin du monde, lorsqu'il déclencha l'énorme processus de création. En effet, au matin du monde, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière s'est faite, mais maintenant ce n'est pas simplement la lumière qui est faite, mais c'est l'auteur de la lumière, l'auteur du monde. Donc le verbe qui est employé, qu'il me soit fait selon ta parole, c'est oh oui, qu'il me soit fait selon ta parole, au sens avec beaucoup de cœur, avec tout son être, elle épouse avec un grand consentement cette volonté de Dieu dans cette proposition. Et l'ange la quitte. Vous voyez, ce oui de Marie, c'est pas simplement un petit oui, oh oui, d'accord, je suis d'accord, pourquoi pas, voilà. Pas très bien, c'est oh oui, j'adhère avec grand enthousiasme. Alors, du coup, je termine par dans les 10 minutes qui me restent pour bien comprendre en fait que ce oui de Marie, ce fiat de Marie, ce consentement de Marie, c'est Marie qui en quelque sorte. Veut de tout son cœur se mettre au service du Seigneur parce que ce service est comme sa vocation, le lieu de sa liberté. Et donc mon grand 3, c'est avec Marie comprendre l'obéissance et la liberté. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante, ça nous fait penser au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il est passé de quoi? De la servitude au service. Il était dans la servitude, dans l'esclavage en Égypte. Il était esclave. Et Dieu va le sortir d'Égypte, va lui donner une loi. Et à ce moment-là, il va former un peuple, et ce peuple va se mettre au service de Dieu. C'est la formule de l'alliance qu'on trouve à la fin des commandements. Dieu va donner les commandements, il y a toute une série de commandements, dont les tables de la loi. Et à la fin, eh bien, le peuple dit, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons et nous comprendrons. Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Qu'il me soit fait selon ta parole. En fait, ce qu'il me soit fait selon ta parole, il a déjà été dit par le peuple hébreu en Exode 24, 7. Chapitre 24, verset 7. Voilà, on a entendu tes paroles, on va les vivre. Marie dit la même chose, j'ai entendu tes paroles et je vais les vivre. Je vais faire alliance avec Dieu. Je vais être au service de Dieu comme le peuple était au service. Quand Marie à Cana enfante les serviteurs à la foi, elle va dire exactement la même chose. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Hein? Le qu'il me soit fait selon ta parole, il va passer à Cana aux serviteurs. Hein? Et les serviteurs vont faire ce que Dieu va dire, ce que Jésus va leur dire, dans cette obéissance, comme Marie, comme le peuple, au pied de la montagne. En quelque sorte, Marie devient la personnification de ce peuple. Elle est ce nouveau peuple qui dit oui à Dieu. Elle entre dans cette obéissance après celui qui s'est fait tout obéissant à son Père. Hein? Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est lui le premier Jésus qui est obéissant. Hein, qui accepte cette incarnation, Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est fait obéissant jusqu'à mourir sur la croix, nous dit l'Épître aux Philippiens. Donc il faut imaginer, vous voyez, dans la Trinité, comment dire, ce discernement, ce colloque, où le Père dit, mais qui vais-je envoyer? Et le Fils dit, envoie-moi, je viens faire ta volonté. Et Marie qui reprend ce fiat, le fiat du Fils qui n'est pas encore né, le fiat du peuple d'Israël, qui le fait sien dans un grand consentement, dans une grande joie. Elle comprend, Marie, que être libre, c'est dire oui à Dieu. Être libre, c'est dire oui à Dieu. La personne la plus libre, c'est la personne qui accepte la mission de Dieu comme une mission qui va la grandir elle-même et qui va faire grandir le royaume. J'aime bien cette petite phrase de Thérèse. Elle cite un saint. Elle dit « Un saint a dit « Le plus grand honneur que Dieu puisse faire à une âme, ce n'est pas de lui donner beaucoup, mais de lui demander beaucoup. » Alors, être libre, ouais, c'est en fait avoir cet honneur que Dieu nous demande beaucoup. Et là, elle lui demande, l'ange lui demande à Marie beaucoup, puisque elle devra porter le Sauveur du monde. Bon. Alors, sur ce thème de la liberté, comme le fait de servir Dieu, je vous renvoie à quelques textes de Veritatis Splendor. C'est un texte du pape Jean-Paul II qui s'appelle La splendeur de la vérité. Je ne vous ai pas mis les textes là, mais je les mettrai dans le document sur le site internet. Sur le site internet, vous retrouvez la feuille et vous retrouverez ces textes de Jean-Paul II. Alors je cite Veritatis Splendor, VS, au numéro 17. Où Jean-Paul II cite Augustin. J'ose dire que dans la mesure où nous servons Dieu, nous sommes libres, et que dans la mesure où nous servons la loi du péché, nous sommes encore esclaves. Ou alors, numéro 85. Le Christ crucifié révèle le sens authentique de la liberté. Il le vit en plénitude par le don total de lui-même. Il appelle ses disciples à participer à sa liberté même. C'est quand même fort, hein? Jean-Paul II qui dit que le Christ crucifié, c'est l'icône de la liberté. Quand tu vois la croix, tu vois l'homme libre. Alors il le dit au numéro 87 encore. La contemplation de Jésus crucifié est donc la voie royale sur laquelle l'Église doit avancer chaque jour si elle veut comprendre tout le sens de la liberté. Deux points, le don de soi dans le service de Dieu et de ses frères. En fait, la liberté, c'est le don de soi. Alors, se donner, c'est pas s'épuiser, hein. Il faut être bon pour les autres. Et les gens, ils sont généreux, mais ils se donnent pas. Ils sont dans la générosité. Une sorte de don, mais qui n'est pas le... En fait, on fait des choses pour Dieu, mais on ne fait pas forcément la volonté de Dieu. On peut faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément ce que Dieu nous demande. Et du coup, on s'épuise, on épuise les autres, enfin bref, on le voit bien. Dans une équipe, tout le monde en a ras-le-bol. Et moi, j'en ai ras-le-bol aussi, puisque voilà, vous en avez ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol, et voilà, voilà. Bon. Bon. Alors... Le don de soi, vous voyez, c'est Marie. Marie, elle est là, elle est dans ce don, c'est-à-dire elle donne tout son projet de vie, voilà, elle accepte. Elle accepte quelque chose qu'elle ne comprend pas. Parce que, comment cela va-t-il se faire? Je t'explique que l'ange va venir sur toi, d'accord? Et après? Après, on verra. Hein. Donc le chemin, on ne le connaît pas. Tu vas avancer dans la nuit, puis tu verras. Voilà, donc vous voyez, quand on se consacre à Marie, eh bien c'est ça qu'on dit.
Marie, en fait, toi, tu as dit oui à Dieu. Donc, tu es celle qui a pleinement consenti. Et moi, je veux bien être à ton école. Et donc, je veux bien, en fait, être aidée par toi, parce que tu as été la première à dire oui. Donc, tu es vraiment une femme libre. Tu as été libre. C'est pour ça que tu as pu dire oui. Et tu as été libre parce que tu as dit oui. Tu as été libre en étant l'Immaculée Conception, donc tu as pu dire oui. Et en ayant dit oui, eh bien, tu as été vraiment libre. Tu as accueilli tu as ratifié, tu as consenti, tu as poursuivi cette liberté que tu avais déjà en toi-même, en étant toute pure. Tu m'as bien enseigné, Marie, que la liberté, c'était de dire oui à Dieu. Et donc, alors Louis-Marie Grignion de Montfort, vous verrez dans les textes que je vous ai donnés sur les feuilles, que vous lirez chez vous, dit bien que quand on est baptisé, eh bien, on quitte l'esclavage du démon et on veut, en fait, être lié à Dieu. Alors, il emploie ce mot d'esclave. Pourquoi il emploie ce mot d'esclave? Parce que saint Paul l'emploie déjà, hein, en parlant de cet esclavage. Moi, j'ai pas la feuille, parce que je l'ai. Où est-ce que j'ai ma feuille? Bon, c'est pas très grave. Enfin, je vous ai mis deux citations là, dans la feuille, voilà. Où est l'esprit du Seigneur? Là est la liberté. Hein? Aussi n'es-tu pas esclave, mais fils, et donc héritier par Dieu. Voilà, Romains 6, 22. Libérés du péché, vous êtes devenus les esclaves de Dieu. Donc, en fait, saint Paul reprend des termes de son époque, hein? L'image de l'esclave, de l'homme libre. Le but, c'est, voilà, il est dans un contexte, il prend des images, comme Jésus prend des paraboles. Bon. Alors, nous, on n'est pas esclaves, comme dit Jésus. Hein? Vous n'êtes pas serviteurs, vous êtes amis. D'accord. Mais on voit bien que pour Jésus, et pour saint Paul, il le dit, hein? Jésus dira, celui qui perd sa vie pour moi la gagnera. Mais celui qui perd sa vie pour moi la gagnera. Mais celui qui veut gagner sa vie en ce monde la perdra. Donc l'homme véritablement libre, c'est celui qui, en fait, entre dans cette obéissance amoureuse à Dieu. Voilà, voilà la consécration. On se consacre à Jésus, mais on demande, en fait, cette attitude mariale. En étant à l'école de Marie. La petite Thérèse disait, je n'ai jamais rien refusé au bon Dieu. Voilà. Voilà. Je crois que je n'ai pas commis de péché mortel, dit-elle. Bon, voilà.
C'était pas toujours facile de savoir aussi ce que tu fais.
Ben, plus vous êtes en Dieu, plus vous savez ce que Dieu veut. Donc, ben, on verra sur le discernement. Il y aura tout un enseignement sur le discernement. Puisque, à un moment donné, Jésus dit, celui qui est ma mère, quiconque fait la volonté de Dieu, est un frère, une sœur, une mère. Donc on travaillera sur la volonté de Dieu avec cet épisode-là.
Dans la mesure où ça va au-delà, si vous voulez, de l'observance d'une loi, entre guillemets, c'est pas facile.
Ouais. Donc on va travailler là-dessus. Amen. Alléluia.